journal, Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une, un très gros cercueil pour un très gros avion, sigil A380, enterré ce jour par Airbus, son constructeur, faute de commandes suffisantes. Récit d'un accident industriel dans un instant. Ne l'appelez plus la belle endormie, Alain Juppé a réveillé Bordeaux depuis 25 ans, tous ses administrés le disent et regrettent son départ au Conseil constitutionnel, alors que ses anciens camarades de droite ne sont pas fâchés, eux, du devoir de réserve auquel il sera désormais soumis. À 8h27, question de saison, Nicolas, comment lutter contre le cyberharcèlement?
Et on attend la réponse de Mounir Majoubi, le secrétaire d'État chargé du numérique. Il est l'invité du grand entretien aujourd'hui. Pour le joindre, les réseaux sociaux, l'application de France Inter et le bon vieux standard 01 45 24 7000.
Dans ce journal, également une bonne nouvelle pour deux mauvaises. Le chômage baisse, mais le bâtiment va mal et Renault aussi. Un nouveau barrage de la Discorde façon Sivens, près d'Agen, celui-là dans le Lot-et-Garonne. Une mamie qui protège la loi des armes en Floride un an après la fusillade de Parkland. Et les amours improbables d'une avocate et d'un gendarme. Mais oui, c'est la Saint-Valentin.
France Inter.
Ce fut un rêve d'enfant qui aurait dessiné le plus gros avion du monde, l'A380 et ses 800 places assises bien serrées en classe éco, sa ligne charnue et ses 4 réacteurs. L'avenir de l'aéronautique quand le programme est lancé au début des années 2000. Mais l'avenir aujourd'hui c'est du passé. Airbus arrête les frais, pas assez de commandes. Même son plus gros client Emirates a décidé d'en acheter moins que prévu. Alors les ultimes livraisons auront lieu en 2021. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
L'histoire de l'A380, c'est l'histoire d'un accident industriel.
C'était pourtant la grande fierté d'Airbus présentée en janvier 2005 à Toulouse, capitale mondiale de l'aéronautique. Ce jour-là, devant un parterre de chefs d'État et de gouvernements européens, chacun y va à la tribune de son envolée lyrique. Parmi eux, le président français de l'époque, Jacques Chirac.
Ce véritable paquebot du ciel fera date dans l'histoire de l'aviation, comme l'Éole de Clément Ader, comme la Caravelle, comme le Concorde.
Un avion capable d'accueillir jusqu'à 800 passagers sur deux ponts surélevés, 73 mètres de long pour 79 de large, un mastodonte qui laisse un souvenir marquant à ceux qui ont pu voler à son bord. Parmi eux, Philippe Ledrance, homme d'affaires passionné d'aéronautique, voyageur sur le tout premier vol commercial en 2007, direction Singapour. Il regrette ce matin l'annonce par Airbus de l'arrêt de son A380.
Ça m'a fait un coup en fait, comme quand on nous annonçait que le Concorde était arrêté. C'était le plus gros avion civil du monde. Pour nous, les passagers, c'est le plus spacieux, le plus silencieux. Donc je comprends pas. Ça me fait un petit peu mal au cœur parce qu'il y a des gens qui ont tout donné pour essayer de faire voler mieux les gens. Et maintenant, en fait, on laisse un peu de côté. Ça me fait mal au cœur. Ouais.
Mais oui, Fabien, le rêve depuis s'est transformé en mirage.
Mirage industriel et surtout commercial. Le carnet de commandes semblait bien rempli au départ. Air France, Lufthansa, British Airways et surtout Emirates se sont vite portés acheteuses de l'A380. Mais dans les faits, peu de compagnies arrivent aujourd'hui à remplir de tels géants des airs. Moins de 300 avions ont finalement été livrés en 12 ans, dont près de la moitié à Emirates, ce qui crée évidemment une forte dépendance commerciale. Et qui explique qu'aujourd'hui, le remplacement de sa commande du coûteux A380 par des A350 et A330 Neo conduisent à l'enterrement ce matin du plus gros porteur du monde.
Fabien Cazot, chef du service économique de France Inter. La 380 fait travailler 3 à 3500 personnes, mais Airbus estime que la montée en cadence de l'A320 et de nouvelles commandes offriront des possibilités de mobilité interne pour ses salariés.
Il est 8h04. Florence, à Bordeaux, un seul être vous manque et vous connaissez la suite.
Bordeaux, l'âme en peine après l'annonce du départ d'Alain Juppé pour le Conseil constitutionnel. Annonce surprise hier, pas de nouveau mandat donc pour celui qui est aux affaires bordelaises depuis presque 25 ans. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
En direct de Bordeaux, Rémi, où vous n'avez rencontré que des administrés chagrins ce matin.
Oui, en tout cas, aucun Bordelais ne reste indifférent à l'évocation du départ de leur maire, même ceux qui, a priori, comme Marie-Jo, ne devraient pas en dire du bien.
Je suis socialiste et pourtant j'apprécie Alain Juppé. Sur le long terme, les gens sont attachés à Juppé quand même. Vous voyez, ma maman m'a envoyé un SMS pour me dire « je viens d'apprendre la nouvelle et je suis très triste ». C'est quelqu'un qui a quand même vraiment marqué la ville et il a quand même bien travaillé.
Car Alain Juppé ici, c'est avant tout un bilan, une ville métamorphosée après 48 ans de règne de Jacques Chaban-Delmas, l'arrivée du tramway, le réaménagement des quais. Alors beaucoup, comme Fred, le voyaient déjà réélu l'an prochain.
Bordeaux aujourd'hui, c'est la ville préférée des Français. Moi, je vois aujourd'hui dans l'activité professionnelle, on recherche beaucoup d'informaticiens, on cherche à embaucher et c'est les Parisiens, ils veulent venir sur Bordeaux. Et c'est vrai que la ville, elle est belle, quoi. On le doit pas à Chaban, en tout cas. On le doit plutôt à Juppé.
Alain Juppé, pourtant parachuté ici en 95, alors Premier ministre, jugé froid et distant à l'époque, a su fendre l'armure. L'opposition le reconnaît même. Pierre Humeric est élu écologiste depuis la même année.
Il avait réussi à nouer quand même un lien un peu charnel, un peu privilégié avec les Bordelais. Ça n'a pas été spontané, parce qu'il n'est pas d'un tempérament naturellement très chaleureux. Au moment de cette annonce, il sera ému.
Alain Juppé qui s'exprimera à 11h ce matin ici à l'hôtel de ville de Bordeaux. Une ville qu'il laisse rayonnante, certes, mais devenue pour beaucoup inaccessible avec des loyers trop chers et qui se questionne ce matin sur son avenir politique.
Rémi Brancato en direct de Bordeaux. Merci avec Fabien Gosset. Alain Juppé regretté par ses administrés, mais pas par ses anciens amis de droite dont il s'est éloigné au fil des années pour se rapprocher d'Emmanuel Macron. L'ancien Premier ministre ne pourra plus commenter l'actualité politique, désormais cantonnée au respect des institutions. Et ça, pour le jeune député LR Aurélien Pradé, ça n'est pas plus mal.
C'est une manière de sortir d'une vie politique tumultueuse qui ne lui correspondait plus et de trouver un lieu plus serein, plus apaisé, d'avoir peut-être moins de travail, plus de temps pour réfléchir. Et puis la bonne nouvelle, c'est que en étant membre du Conseil constitutionnel, Alain Juppé va devoir être neutre dans le débat politique. Écoutez, vous voyez bien que depuis quelques semaines, il hésitait beaucoup entre un camp politique et un autre. Moi, j'étais assez peiné de le voir devenir un instrument politique pour Emmanuel Macron. Et je pense qu'il ne manquera pas terriblement à la vie politique de cette époque.
Et de sa famille politique. Il va lui manquer à sa famille politique ?
Des personnalités comme Alain Juppé manquent toujours à leur famille politique. Je pense qu'il nous manquera, moins que d'autres. Il ne fait pas bon vieillir en politique. C'est une leçon pour tout le monde. Ce que je dis n'est pas méchant, hein, mais je le pense vraiment. Qu'il est temps, quand on n'est plus dans son époque, de s'en sortir. Et c'est une manière de concevoir le nouveau monde.
Les mots durs d'Aurélien Pradier au micro de Rosalie Lafarge. Un boxeur à l'ombre, mais seulement la nuit. Un an de prison ferme aménagé pour Christophe Détinger, qui avait cogné des gendarmes à Paris pendant une manifestation de gilets jaunes. Ce qui veut dire qu'il pourra continuer à travailler le jour, mais qu'il dormira en prison. Il a interdiction de se rendre à Paris pendant 6 mois. Jugement salué par ses avocats, comme par les avocats des gendarmes. Le chômage baisse de 0,3 points au quatrième trimestre 2018. Les chiffres viennent de tomber avec 8,8% de la population active au chômage. Le chômage est à son plus bas niveau depuis 2009. Avec cette bonne nouvelle, une moins bonne ce matin, autre chiffre, autre perspective, c'est le bâtiment qui ne va pas fort. Moins 11% de maisons individuelles construites l'an dernier. Et plus on s'éloigne des villes, plus le décrochage est spectaculaire, lié aux baisses des aides à l'accession à la propriété. Quand le bâtiment ne va pas, c'est l'emploi qui trinque, alertent les professionnels, Claire Chaudière.
Avec moins 22% de ventes, la Normandie fait partie des territoires les plus touchés. Nous voici près d'Évreux.
Ici, c'est la pièce à vivre. Il reste encore quelques finitions, mais on peut rentrer dedans.
Dernière visite de chantier pour Christian et Martine, bientôt propriétaires dans un nouveau secteur pavillonnaire dont toutes les parcelles n'ont pas encore été vendues.
Il en reste 3, je crois.
Un signe qui ne trompe pas pour Philippe Verne, du constructeur Extraco, qui a coordonné les travaux.
Quand j'ai commencé en 2006, un lotissement comme celui-ci, en un mois ou deux, tout était vendu.
Mais l'an dernier, le prêt à taux zéro a été divisé par 2 en zone rurale, mesure budgétaire. Résultat, financement retoqué pour de nombreux ménages, carnet de commandes clairsemé, toute la filière, dit-il, est fragilisée.
On est fortement impacté, puis il y a certains constructeurs où ils se posent beaucoup de questions. Fermeture d'agences, des licenciements, le rythme risque de s'accélérer. Quand on voit le nombre de personnes que ça fait travailler, les bureaux d'études, les artisans sur les chantiers.
Et c'est bien là tout l'enjeu, les conséquences risquent d'être lourdes en 2019 et 2020 si la tendance se poursuit, prévient Patrick Vendrome, le président de la Fédération Fédération des constructeurs.
On aura moins d'emplois, que ce soit en direct ou en indirect avec la sous-traitance. 11% de logements en moins, c'est 11% de moins d'activité, c'est 11% de moins de personnel. Hein.
Pas encore d'effondrement, mais la production de logements sera retombée en 2018, note la Fédération, à son niveau très bas de 2008, année de la crise des subprimes.
Claire Chaudière, dernier résultat économique de cette matinée, très mauvais pour Renault, dont le bénéfice net recule de 36%, plombé par les mauvais résultats de Nissan en 2018.
Il est 8h10, Florence, serait-ce un Sivens bis?
Du nom de ce projet de barrage abandonné il y a 3 ans dans le Tarn, après une forte opposition et la mort d'un jeune homme pendant une manifestation, dans le Lot-et-Garonne, un autre conflit de l'eau est en train de tourner au vinaigre. La Chambre d'agriculture construit une grande retenue, le lac de Caussade, pour se prémunir de la sécheresse. Mais les travaux sont illégaux. La préfecture en a annulé l'autorisation cet automne. Encore un dossier chaud qui oppose agriculteurs et défenseurs de l'environnement. Ils passeront chacun leur tour dans le bureau du ministre François de Rugy aujourd'hui, Sandy Dauphin.
Les pro-barrages fustigent les écolo-bobos des villes, les antis dénoncent un projet clientéliste et un comportement de délinquant. Deux positions irréconciliables. D'un côté, la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, bastion du syndicat La Coordination Rurale, attend cette retenue depuis des années. Un lac, 900 000 mètres cubes d'eau pour aider de petits exploitants, producteurs de fraises ou encore de noisettes, à irriguer l'été. De l'autre, les défenseurs de l'environnement accusent une minorité d'accaparer l'eau, une ressource qui va devenir de plus en plus rare avec le changement climatique. L'été dernier, la préfecture du Lot-et-Garonne avait donné son feu vert au barrage, mais à l'automne, revirement, l'État annule l'arrêté. La Chambre d'agriculture décide alors de braver l'interdiction et poursuit le chantier. Il y a 2 semaines, les gendarmes ont voulu apposer des scellés sur les engins de chantier. Impossible, un cordon d'agriculteurs barrait l'accès au site. Depuis, la tension est un peu retombée, les travaux sont à l'arrêt, mais la coordination rurale vient d'être réélue triomphalement à la Chambre d'agriculture et elle est déterminée à finir sa retenue d'eau.
Direction Tallahassee, Floride maintenant, où une mamie fait régner la loi des armes un an après le massacre du lycée de Portland qui a fait 17 morts. S'il ne s'est quasiment rien passé depuis en termes de contrôle des armes à feu, c'est à cause d'elle. Marion Hammer, alias Mamie Gun, 80 ans, représentante locale de la NRA, le lobby pro-armes, c'est l'une des femmes les plus puissantes de Floride, où se trouve notre correspondant Grégory Phillips.
Dans les couloirs du Capitole de Tallahassee, on croise presque chaque jour la silhouette de cette petite dame, 1m50, et son éternelle coupe au bol. Marion Hammer aura 80 ans dans 2 mois. L'ancienne dirigeante nationale de la NRA n'est pas une élue, mais depuis 2 décennies, elle est à l'initiative d'une 30aine de lois pro-armes adoptées par le Parlement de Floride. On dit de cette lobbyiste qu'elle fait et défait les carrières, par exemple en notant les élus en fonction de leur engagement à défendre ou non le second amendement. Ces notes vont de A à F et sont consultables par tous. Moi, je suis A+, explique le sénateur républicain Dennis Braxley. Je n'ai jamais voté une loi qui restreint l'accès aux armes. Et moi, comme note, j'ai reçu F- que je porte comme une médaille, dit Carlos Guillermo Smith. L'an dernier, le représentant démocrate a réussi à faire passer cette loi qui, en Floride, relève l'âge minimal pour acheter une arme de 18 à 21 ans. Si ces dernières décennies, on n'a pas été capable de passer la moindre loi importante sur le contrôle des armes en Floride, c'est parce que les républicains ont été pieds et poings liés avec le programme de Marion Hammer. Mais je pense que depuis Parkland, depuis l'an dernier, elle a un peu moins de pouvoir au sein de ce Parlement. Et c'est bien. Les survivants de Parkland ont lancé cette semaine une pétition pour réclamer l'interdiction de la vente des fusils d'assaut en Floride. Mais Marion Hammer, Mamie Gun, utilisera sans aucun doute tout son poids et son influence pour faire en sorte que cela n'arrive pas. Tallahassee, Grégory Phillips, France Inter.
Un accord sur les droits d'auteur en vue à Bruxelles. Serpent de mer qui oppose Google, Facebook et compagnie à la presse. Notamment, hier, un consensus semble avoir été trouvé qui prévoit la rémunération des articles mis en ligne pendant 2 ans aux médias qui les ont produits. Des gendarmes réservistes dans les bus en région parisienne. 1 millier d'entre eux déployés sur les lignes de la Grande Couronne, financés par la région. Une expérimentation avait permis des résultats contre la fraude et la violence dans le Val d'Oise cet automne, selon la régie des transports d'Île-de-France. Là, c'est l'histoire d'un gendarme amoureux d'une avocate, histoire de Saint-Valentin, évidemment, pour finir. Eric interpelle les malfaiteurs, Virginie les défend, et pourtant, ils s'aiment passionnément, Delphine Evenou.
Quand ils se sont rencontrés il y a 4 ans, cela a donné plein d'onomatopées.
Crac, coup de foudre, on s'est regardé, paf.
Ça se match et puis ça se commande pas.
Et pourtant, sur le papier, Eric et Virginie, la cinquantaine, forment un couple atypique.
Ce qui fait toujours marrer, c'est « Ah, il y en a un qui les arrête et puis il y a l'autre qui les fait sortir ». Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est effectivement l'image que ça renvoie, bien évidemment.
Nous, on est là pour interpeller les auteurs des infractions, mais nous, ça s'arrête là. Virginie intervient principalement sur la suite.
Eric, vous donnez du travail à Virginie, c'est ça ?
Oui, oui, on peut le dire directement, oui.
On est du même monde, il ne faut pas croire que les avocats, les gendarmes et tout ça se détestent de manière générale. On fait partie du même monde.
Chacun a un bout de la chaîne pénale, mais ensemble le plus souvent possible.
Plus on est ensemble, plus on est content.
Et pour ça, Eric cale ses jours de repos quand Virginie doit partir visiter ses clients en prison. Cette fois, il l'attendra sur le parking du centre de détention de Melun.
C'est ce qu'on appelle tous les deux le tourisme pénitentiaire. Ça me permet de découvrir les maisons d'arrêt, les centres pénitentiaires. Pour certains, ça peut pas paraître glamour. Pour moi, j'apprécie beaucoup. C'est très instructif.
Les amoureux ont déjà parcouru 100 000 km. Et quand on trouve les parkings de prison romantiques, pas besoin de fêter la Saint-Valentin.
On la fête tous les jours.
Et ils l'espèrent à perpétuité.
À nos amours, Nicolas.
Ah oui, oh, qu'elle dure toujours. Oui. Merci Florence Paracuelos.